Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes en février 2025 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Cyrus et je suis accompagné de Caducé. Bonjour Caducé.
Bonjour Cyrus.
La forme?
Toujours.
Ah, génial. Et nous recevons Léandre Proust. Bonjour Léandre.
Salutations.
Alors Léandre, tu es auteur, je crois que tu es graphiste aussi, éditeur de jeux.
Je fais de la mise en page, on va dire que je touche un petit peu ma bille dans, en infographie, mais auteur, surtout éditeur.
Ouais.
Mais sinon, en général, sur tout ce graphisme, je vais plutôt déléguer.
Ouais, ok, d'accord. Et mais éditeur de jeux et éditeur de presse.
Aussi, aussi. On s'arrête jamais. Ouais. On adore les casquettes.
Comment tu te définis, toi?
C'est un peu pompeux, mais j'aime bien dire que je suis un expérimentateur ludique. J'adore expérimenter des activités autour du jeu de société. Toujours, c'est le fil conducteur.
Mmh.
Donc aussi bien de l'édition de jeux, de la création, des concepts, de la presse, voilà.
Okay.
Actuellement, je suis beaucoup sur l'édition, mais je pourrais très bien partir sur vraiment un autre concept lié autour du jeu.
Je comprends bien le terme et le rapprochement avec expérimentateur ludique. Je le fais et on va ensemble développer tout ça lors de cette interview. Alors pour commencer, on pose une petite série de questions à nos invités. C'est notre fil rouge. Voilà, on a organisé ça là maintenant depuis quelques années lors de ces interviews à Cannes et on a tous les ans un nouveau petit fil rouge. Donc c'est 5 petites questions sur lesquelles on va passer assez rapidement. L'idée c'est de faire un petit peu connaissance, surtout autour du jeu de société. Et Caducé, je te laisse poser la première question de ce fil rouge.
Pour toi, quel est l'as d'or du jeu pour rire avec les potes?
Waouh, pour rire avec les potes, il faut que ce soit un jeu qui soit édité l'année dernière?
Non.
Peu importe, lequel.
Ouais.
Waouh.
De tous les temps de l'univers, pour toi.
De l'univers? Incroyable.
Ouais, tout l'univers.
Ouais. Ah oui, on a pour toi. Devant rien.
Ouais, pour moi. Je réfléchis. À des jeux où je rigole beaucoup. Bah, pas beaucoup, en fait. C'est pas du tout mon style de jeu. Mais, ouais. Les jeux où je rigole, c'est pas mon délire. Mais, ce qui me vient tout de suite en tête, et j'ai plus le nom du jeu, c'était un jeu où j'ai tapé une énorme barre de rire. C'était un jeu de The Rivière que j'ai découvert au Flip il y a quelques années.
Ouais.
Je ne sais plus le nom du jeu, mais,
vas-y, dis-nous, qu'est-ce qu'il fallait faire?
On avait des cartes, on devait les révéler. Et ça nous donnait une contrainte où on devait être sur un pied, etc. Et c'était
Foufoufou, non?
Foufoufou, c'est ça, exactement.
Ouais, avec des contraintes communes individuelles. Ouais.
Alors c'est pas du tout ma cam, parce que moi je suis plutôt un jeu de joueur de stratégie. Mais Foufoufou, très bonne expérience. Je m'y attendais pas, ça m'a surpris. Et celui-ci m'a fait taper une grosse barre, comme c'était ça la condition.
C'est ça.
C'est bien ça. Ouais. Mais du coup, la deuxième question va peut-être être un peu plus en tes cordes. Quel est pour toi l'as d'or du jeu qui t'a fait le plus fumer le cerveau?
Waouh. Le plus fumer le cerveau. Ok. Je pense que ça va être un des premiers jeux que j'ai découvert, qui est pas vraiment un jeu de société, plutôt un TCG, et le père de tous les TCG, donc Magic, pour le coup.
Ok.
Réponse assez classique, mais c'est celui qui m'a allumé la tête et qui m'a, quand j'étais ado, m'a réveillé complètement et m'a dit waouh, les possibilités sont infinies.
Effectivement, pour l'instant, ils l'ont pas encore fini.
Quel est l'as d'or du jeu auquel tu ne veux plus jamais rejouer?
Oh, une grosse déception du coup. Je pense que ça serait lié à une mauvaise expérience. Je suis pas sûr que le jeu en soi soit mauvais, mais ça a été les loups-garous de Tiercelieu. Après deux éliminations consécutives en premier et deuxième, la soirée était plutôt
mal entamée.
Ouais, médiocre au mieux. Okay. Donc j'étais plus spectateur que joueur au final, mais c'était amusant à regarder, mais pas amusant à jouer.
Ouais. Heureusement qu'il y a au moins ça.
Mais le jeu n'est pas mauvais en soi. Hein. C'est juste que quand on sort au départ, on est plus joueur.
Et quel est l'as d'or du jeu auquel tu penses encore 3 jours après la fin de la partie?
Ça va plutôt être des jeux sur lesquels il y a une arborescence de possibilités conséquentes et où si j'avais fait ça, il se serait passé ça. Oui, mais ok. Peut-être ça serait plutôt sur un jeu classique du style échecs,
ah ouais,
avec la possibilité de refaire la partie et de voir toutes les séquences qu'aurait pu être.
D'accord.
Ouais. Et la dernière question, quel est l'as d'or du jeu le plus moche?
Waouh. Certainement l'ensemble de mes prototypes.
Et le prix est attribué à Léandre Pouze pour l'ensemble de son œuvre.
je vais le donner à Skijo. Voilà, c'est cadeau, c'est moi qui régale. J'ai pas besoin d'argumenter, je pense. Non.
Ok. Eh ben écoute, on va attaquer vraiment l'interview en propre maintenant. Alors on va d'abord parler de tes projets en tant qu'auteur et éditeur, parce que t'as fait beaucoup d'auto-édition en fait. Hein.
Ouais.
Alors moi je me rappelle de ton premier Kickstarter, enfin il me semble que c'est le premier, qui était Tower Defense.
Ouais, alors c'était pas sur KS, c'était le premier financement participatif que j'ai fait, effectivement. Là t'as raison, un demi-point j'ai envie de dire. Et... par contre, c'était sur KissKissBankBank.
Ah, c'est KissKissBankBank.
Ouais,
c'était sur KissKiss. Je crois que j'ai retrouvé une page. Non, je dis des bêtises. En plus, c'est la KissKissBankBank.
Je t'entendrai par rigueur. Et sur KissKissBankBank, c'était là effectivement mon premier financement participatif sur un projet qui était un peu atypique aussi, parce que c'était le concept d'une carte pour jouer.
Un jeu sur une seule carte.
Un jeu qui se tient sur une seule carte et qui joue avec des pièces de monnaie. Et pour mon premier projet, je voulais surtout expérimenter le modèle. Économique du financement participatif et ça m'a appris pas mal de petites choses et ça m'a aidé surtout pour les suivants. Donc c'était une forme de d'auto-formation sur le financement participatif.
D'accord.
Le jeu en tant que tel était amusant, distrayant, mais en fait la contrainte principale c'est qu'il fallait quand même à côté avoir 30 pièces de monnaie.
Petites
caillasses qui étaient pas forcément très faciles à obtenir. Donc les gens l'avaient acheté surtout pour soutenir la démarche et le côté un petit peu atypique, mais je suis pas sûr que il y a beaucoup de joueurs qui aient joué au jeu véritablement.
J'y ai joué. Je l'ai.
Moi aussi, j'y ai joué.
La carte est sous blister avec des pièces dedans. Donc, si un jour, d'ailleurs, je suis en rade, je peux aller chercher les pièces, non. Et c'était vendu 3€ à l'époque. Du coup, c'est vrai que c'était, enfin, c'est un projet un peu catchy, quoi. C'est intriguant. Tu te dis, bah, tiens, ils vendent un jeu pour 3€. Ouais. Alors, 3€ la carte, c'était un peu cher, quand même.
Ouais. Mais... après, ça, on peut en parler, hein. On peut en parler. Est-ce qu'un jeu, c'est un matériel? Est-ce qu'on doit vendre un jeu au kilo? Ou est-ce qu'on vend le développement, le test, les allées en festival, la communication? Moi, je trouve que 3€ pour un jeu, c'est pas cher. Effectivement, 3€ pour une carte, c'est cher. Mais un jeu, c'est pas une carte. Même si ça se résume, là, en l'occurrence, en termes de matériel, à une seule carte.
Bien sûr. Alors, je sais pas si c'est ensuite, mais on peut parler peut-être de Clash of Deck.
Ouais.
Il y a eu d'autres projets entre les deux?
Ouais. Il y a eu, j'ai fait un autre jeu qui tient sur une seule carte qui s'appelait Tu perds, tu laves. C'était sur Ulule cette fois-ci. Mm-hmm. Je suis passé sur KissKissBankBank sur Ulule et ensuite j'étais sur Kickstarter. Mm-hmm. Et pareil, Tu perds, tu laves, c'était un jeu qui tenait sur une carte et pour savoir qui allait faire la vaisselle. Mm-hmm. Voilà, c'est histoire de pas se mettre sur la gueule. Et c'était un jeu où on devait, pareil, empiler des assiettes et donc des pièces de monnaie les unes sur les autres. Et donc il y avait une contrainte de pose. C'était un jeu un peu d'adresse. Qui tenait sur une carte.
Ouais.
Mais c'était un tout petit projet assez anecdotique. Mais après, effectivement, les autres jeux que j'ai édités sur Kickstarter, les tout premiers, c'était une collection cut and play que j'ai fait, pas en tant que Gram Édition, mais en tant que Léandre Proust seulement, quand j'avais pas encore ma société. Et c'était une collection qui a été faite en 2 saisons. À chaque fois, il y avait 5 jeux proposés. Et la particularité de ces jeux, c'est qu'ils étaient édités sur une seule feuille A5 cartonnée. Et on devait soi-même découper les éléments de la feuille. Et en gros, c'était pas du print and play, c'est du cut and play, c'est-à-dire que c'était déjà imprimé sur un support un peu rigide, un peu quali, et il fallait juste découper pour pouvoir jouer. Et ça s'appelait la collection cut and play, et tous les jeux sont encore disponibles gratuitement en téléchargement gratuit sur le site de Gram Édition.
Mais sur ton site, on peut les retrouver. J'ai effectivement revu ça.
Carrément.
On voit d'ailleurs le nombre de téléchargements.
C'est incroyable.
Certains sont en différentes langues, je crois, sinon.
Ouais, alors tous sont en français et en anglais de base, et après il y a des volontaires, des bénévoles qui se sont mobilisés pour traduire le jeu en italien, en espagnol ou autre.
Ok.
Et c'est vrai que ça, c'est une grande force en général du participatif, c'est que il y a des forces vives, des backers qui comme ils payent presque rien sur mes jeux, parce que j'ai des modèles économiques alternatifs comme le free to play ou comme le pay what you want, qui se sentent un peu redevables. Et du coup, j'ai beaucoup de personnes qui volontairement me contactent pour volontairement traduire mes jeux dans une autre langue. Concrètement, Clash of Deck, dont tu parlais juste avant, a été traduit dans...
Un paquet de langues.
Ouais, genre 35 ou 36
langues. C'est impressionnant, la page de traduction.
Donc ça c'est une grande force, c'est la force de la communauté, ça c'est très 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 puissant.
Alors pour revenir justement sur Clash of Deck, c'est une aventure qui a démarré, si je dis pas de bêtises, en 2020, c'est ça?
Ouais, exactement.
En mode cut and play justement.
Ouais, ça a commencé comme ça, en cut and play, L'idée c'était que j'avais toujours envie de faire un, j'ai toujours envie de faire un jeu de cartes d'affrontement à la Magic.
Magic.
On en parlait tout à l'heure. Voilà. Mais moi je suis plutôt un fervent adepte du minimalisme, donc très peu d'éléments, des règles assez épurées.
Donc complètement aux antipodes de Magic.
Voilà, voilà. Mais je me dis qu'il y avait quelque chose à faire dans le style de jeu en tout cas. Et à cette époque-là, j'étais assez fan du jeu mobile Clash Royale. Et du coup, l'idée de départ était de créer une version de Clash Royale adaptée en jeu de cartes, en jeu d'affrontement. Pour la petite anecdote, j'ai même plusieurs années plus tard, une fois que le jeu a été vraiment édité sous format un peu plus standard, Clash of Deck, on a démarché Supercell, qui est l'éditeur du jeu Clash Royale, pour demander les droits, et finalement, au bout de 6 mois, ça a été un refus, mais il y avait une possibilité que, à un moment donné, ça débouche sur une réédition avec la vraie licence Clash Royale. Et donc, petite anecdote fermée. Et donc, on a commencé avec un cut and play, effectivement. Et le jeu s'est vendu uniquement sur Philibert au départ. En fait, on a voulu diffuser le jeu en plein pendant le lancement. C'était le Covid.
Ouais,
génial, meilleure idée du monde. Ouais, oui. On a envoyé un exemplaire à environ 800 ou 1000 boutiques. Pour leur présenter le projet et une semaine après c'était le confinement. Donc autant te dire que les boutiques avaient autre chose à faire que de voir notre petit jeu à découper. Voilà, c'est passé un peu à l'as et du coup les options qui s'offraient à nous pour diffuser le jeu de manière massive, c'était de passer par une boutique en ligne qui avait une grosse audience, qui était notamment Philibert.
D'accord.
Et du coup on a filé l'exclusivité de la diffusion à Philibert sur ce format là cut and play et le jeu a plutôt bien marché. En tout cas, avec un mono-vendeur, on va dire. Mais j'ai pas mal de joueurs qui ont vraiment bien apprécié et qui m'ont encensé, motivé, pour sortir une version plus standard du jeu.
D'accord. Et du coup, quand tu dis ça a bien marché chez Philibert, c'était combien de ventes ?
En fait, le modèle, c'était... je sortais une extension autonome de Clash of Deck tous les mois. Il fallait découper ses cartes. Il y avait 18 cartes tous les mois qui étaient disponibles. Et en termes de succès, je mets des guillemets, ça se voit pas, mais je l'ai fait avec les doigts. On était à plusieurs centaines d'exemplaires tous les mois.
D'accord.
De vendus. Okay. Entre 4 et 600 en moyenne.
Ah, donc du coup, t'as réussi à fidéliser vraiment des gens autour de ce jeu, de créer une communauté.
Une petite commune, ouais, carrément. Le problème, c'est que j'avais pas le contact direct. En fait, ça, c'est un truc qui m'a manqué.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vends des jeux par l'intermédiaire d'une boutique ou d'un distributeur, en fait, tu acceptes de ne plus avoir le contact direct avec les clients finaux qui sont les joueurs.
Ouais. Ça m'a toujours posé. T'avais des Ulule, Kiss Bang Bang.
Et j'avais toujours un lien direct. Et en fait, moi, ça me posait problème dans mon modèle économique. Moi, ce que je voulais, c'était avant tout faire de la vente directe. Mmh. Alors, moi, ce que je voulais de base, c'est créer des jeux les miens. Mmh. Parce que actuellement, j'ai pas le temps de développer des jeux d'autres personnes. Pas que les jeux des autres sont pas intéressants. C'est juste que j'ai déjà pas assez de temps pour faire les miens. Et ensuite, moi, ce que je veux cultiver, c'est la vente directe. Pour plusieurs raisons, déjà parce que économiquement c'est un des moyens d'avoir une viabilité économique sans devoir faire des volumes colossaux. Et en plus on peut affirmer sa différence et lancer des projets qui sont un peu différents, que ce soit dans leur forme ou que ce soit même dans leur modèle économique. Faire un jeu free to play ou pay what you want vendu en boutique, ça marchera absolument pas. D'ailleurs, on l'a essayé sur le free to play en boutique quand on avait un distributeur sur Clash of Deck plus tard. Ça a floppé complètement parce que le jeu était vu comme un goodies donner et était pas du tout valorisé.
Ouais, bien sûr. Ouais, ça dévalue effectivement la valeur de l'objet, sa valeur marchande du coup qui est à zéro, donne une impression que bah en fait ça vaut rien quoi.
Voilà. Alors que si, ça vaut.
Je voulais juste continuer sur Clash of Deck parce que ça reste un jeu qui a eu plusieurs vies, qui a évolué après cette accessibilité en cut and play.
Absolument.
Tu peux nous parler de la suite de la vie de Clash of Deck.
Mais tout à fait. Alors en fait la première renaissance de Clash of Deck c'était en 2021. Tout début 2021 on a lancé un Kickstarter pour proposer l'ensemble du contenu qu'on avait déjà édité en cut and play dans une espèce de format premium. Dans une seule boîte, voilà. On l'a proposé sur Kickstarter. Le hic, c'était qu'en fait, on n'était pas connu du tout de tous les backers internationaux. Et du coup, on a eu que des francophones. Donc, c'était cool. Il y en avait suffisamment pour financer le jeu, mais presque tout juste, au bout de quelques jours. Mais en fait, j'avais plus d'ambition pour le jeu que ça. Du coup, j'ai préféré avorter la campagne, repenser le modèle économique. Et plutôt que de vendre un jeu à 35€ avec tout le contenu des cartes déjà édité sous un format standard, j'ai dit, OK, je vais couper mon jeu en 7 je vais en offrir un septième gratuitement à tous ceux qui veulent découvrir le jeu. Mmh. Et je fais une campagne Kickstarter là-dessus en disant, bah, achetez-le, ça coûte 0€, plus 2€ de frais de port pour une livraison n'importe où dans le monde. Et du coup, là, on a eu beaucoup de personnes qui étaient intéressées. Forcément, quand c'est pas cher, ça attire beaucoup de personnes.
Ça fait du bruit, là.
Ça a fait du bruit. On a eu plus de 20 000 backers, ce qui est énorme. On a envoyé 36 000 exemplaires individuellement avec ma collègue Adeline. On a préparé les enveloppes nous-mêmes dans des enveloppes bulles. Ça nous a pris plusieurs semaines. Ouais. Donc, on a fait tout ça. Et du coup, en fait, cette campagne était plutôt une campagne de communication. Bien pas sûr. Vraiment une campagne de vente, parce qu'en fait, on faisait aucun bénéfice. Mais c'est cette campagne...
même de la perte.
Non, aucune perte. Non.
Tu avais des contrats particuliers pour pouvoir proposer des livraisons dans le monde entier à 2 euros.
Ouais, avec la Poste. En fait, la Poste propose des contrats qui s'appellent Destinéo, Destinéo Monde Volume, notamment pour le monde, et Destinéo Cadeau. Et en fait, c'est des contrats qui permettent d'envoyer des échantillons gratuits massivement à 1000, 2000, 5000 exemplaires pour des coûts assez faibles par rapport à ce que ça coûterait normalement d'envoyer en lettres standard internationales.
Alors du coup, tu veux dire que
c'est la solution de la Poste qui a permis ce modèle économique qui est d'être viable.
Et ça enfin dire les gens ils payaient 2 euros, ça compensait aussi la fabrication du coup du paquet.
Ouais. D'accord. Parce qu'en fait, on a imprimé les jeux à 40 000 exemplaires. Mmh. Faut savoir qu'un jeu de cartes imprimé à ces volumes-là, ça coûte une crotte de nez à produire. On les a fait fabriquer en Belgique, pas en Chine. Et pour être tout à fait transparent, le coût de production à l'époque était de 40 centimes pièce.
40 centimes le paquet, du coup.
Le paquet de cartes. 40 centimes le paquet de
la boîte avec 36 cartes.
Tout compris. Mmh. Ça coûtait 40 centimes. Puis après, il y avait les frais postaux. Ça dépendait si c'était monde, Europe ou France. Mais en gros, tu peux dire que ça coûtait à peu près 1 euro. Après, il y avait également tout ce qui était l'enveloppe bulle, l'étiquette, la TVA aussi. Parce que mine de rien, même il y avait quand même de la TVA sur les 2 euros pour l'Europe et pour la France. Et bon, bref, tout compris, en fait, on arrivait à une moyenne d'environ 1,90€, 1,96€ par backer. Donc, autant te dire que les bénéfices étaient extrêmement faibles.
Ouais, bon, ça te paye pas, quand même.
Non, mais par contre, la suite a payé.
Bien sûr.
Parce qu'après, la saison 2, elle a permis de transformer 20% des backers de la saison 1 sur la saison 2, donc on a conservé 20% des personnes qui étaient intéressées par le jeu de la saison 1 à la saison 2, et donc toutes les personnes qui ont participé à la saison 2, c'était que des personnes qui étaient déjà convaincues par le jeu.
C'était vraiment une campagne de communication.
Ah complètement. C'était goûtez-y. C'est comme quand tu vas chez ton fromager, tu veux un petit bout de chèvre, il est bon. Ok, je te prends la bûche entière.
L'échantillon. C'est ça.
Mais disons que c'est carrément machiavélique, ça.
Mais en fait, je trouve ça cool parce qu'en fait les backers peuvent pas être déçus. C'est-à-dire que ça les engage en presque rien.
Oui.
Et une fois qu'ils y ont goûté, s'ils veulent du contenu supplémentaire, et ben en fait, ils savent dans quoi ils mettent les pieds. Il n'y a pas de prise de risque. Est-ce que le jeu va vraiment me plaire? C'est vraiment win-win quoi pour tout le monde. Et pour le coup, on a fait sur la deuxième campagne un peu plus de 150 000 euros de CA sur la saison 2. Et là, pour le coup, les bénéfices étaient bien présents.
D'accord. Okay.
Et après, on a fait une saison 3.
Ouais.
Et puis après, depuis 2 ans et demi, on bosse sur une adaptation en jeu vidéo mobile. Et là, c'est la troisième vie de Clash of Deck. Et le jeu mobile sur iOS est prêt. On attend plus que le portage sur Android pour lancer la com en même temps sur les deux, et ça devrait arriver avant la fin du premier semestre 2025.
D'accord.
Donc ça, c'est la troisième vie de Clash of Death. Parce que actuellement, le jeu en version physique, les saisons 1, 2 et 3, donc les 10 extensions autonomes avec les accessoires, etc., on ne fera pas de nouveaux tirages, on va juste écouler les stocks, et le jeu n'aura pas de suite en version physique.
Ok. Mais tu envisages des extensions sur la version en ligne?
Ouais, complètement.
La version
en fait, en fait, tout dépend du succès et de l'intérêt des joueurs sur la version en ligne. Mais l'idée, ça va être au moins d'atteindre le contenu qui a déjà existé en version physique. Et ensuite, si on constate qu'il y a une commu qui est encore là, qui est présente et qui veut du contenu supplémentaire, on n'exclut absolument pas de pouvoir développer du contenu carte supplémentaire ou même du contenu visuel, des nouvelles illustrations, ce genre de choses.
D'accord.
Complètement.
Ouais, bon, après, tu pourras peut-être reboucler la boucle et refaire en physique.
Exactement, je vais refaire un cut and play.
C'est ça. Okay.
Non, et en vrai, c'est pas prévu parce qu'on a tellement d'autres projets à côté que pour moi, Clash of Deck version physique, là, c'est vraiment terminé. Mais j'ai un autre jeu qui s'approche en projet, en tout cas, qui s'approche mécaniquement, mais avec un autre modèle économique et qui devrait arriver aussi en 2025, mais j'en dis pas plus encore sur ce projet-là, mais en gros, ça reprend le cœur mécanique de Clash of Deck.
D'accord.
Sous un nouveau format.
D'accord. Sur la version en ligne, tu prévois le même genre de modèle économique, c'est-à-dire la première dose gratuite?
Ça, c'est la fabrique de la maison, mais toujours. Ça sera un free-to-play, donc n'importe qui pourra jouer gratuitement au jeu. Tu le télécharges, tu y joues. C'est un peu le même principe que sur Candy Crush. T'as 3 vies. Dès que tu perds une partie, concrètement, tu perds un cœur et il faut attendre un petit timer qui se lance pour attendre le recrédit d'une nouvelle vie.
D'accord.
Si tu tombes à 0 point de vie, tu dois attendre donc de quelques dizaines de minutes pour recréditer tes trois vies. Donc plus tu perds et plus tu dois attendre.
OK. Ou alors tu peux payer pour
En même temps, t'as qu'à pas être si mauvais. Mais ou alors effectivement, tu peux payer pour supprimer le concept de cœur, ouais. Et en fait, t'es sous potion. On appelle ça être sous potion en intraveineuse, et là tu peux perdre autant que tu veux, en fait t'es pas restreint en termes de nombre de parties. Il y a d'autres contraintes, je vais pas rentrer dans le détail, mais il y a d'autres contraintes qui fait que c'est plus intéressant évidemment d'être sous potion que juste de jouer en mode free to play. Il y a par exemple l'obtention de cartes supplémentaires de manière plus rapide. Mmh. Tu as également la possibilité, normalement quand tu crées un deck dans Clash of Deck, le jeu vidéo, tu dois forger ton deck et donc payer un coût. Quand tu es sous potion, tu n'as pas besoin de payer en pièces d'or le coût de ton deck.
D'accord.
Il y a d'autres avantages, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu, ça ne va pas forcément en parler aux auditeurs, mais en tout cas, il y a d'autres contraintes qui font que ce sera intéressant de choper une potion.
Et donc là, on est vraiment dans une adaptation numérique,
ouais.
C'est ça, pas dans le portage en fait du Clash of Deck qui est déjà sur BGA.
Ouais.
Hein, ouais. Tu as le jeu de base qui est accessible sur BGA.
Le jeu de base et même les 6 premières extensions sont également disponibles sur BGA.
D'accord.
Quand le jeu mobile sera disponible enfin, on va retirer les 6 extensions de BGA. Il y aura plus que le pack d'initiation, toujours pour découvrir le jeu. Mais l'idée, ça va être de fédérer la commu Clash of Deck autour de l'application et pas la scinder en deux.
Pour porter le jeu vers son âge adulte.
Bah l'idée ça va être de le développer à un max et d'aller le plus loin possible avec. Donc on va pas se tirer une balle dans le pied en divisant la communauté sur deux supports.
Alors, on n'a pas parlé de la deuxième vie et demie ou la première vie et demie de Clash of Deck. Il y avait un concept store.
Ah oui, c'est vrai. Ouais, pendant un an et demi. Effectivement, et c'est fou hein, tout ce qu'on fait et on se souvient plus après.
tu préfères oublier ou...
Ah non, complètement, j'ai adoré. Non, c'était génial. Je me suis fait plaisir.
Est-ce que tu peux expliquer du coup le concept store?
Le concept du concept store. C'est le concept store. On aime bien expérimenter des choses un petit peu atypiques chez Garma Edition. Et la particularité du concept store, c'était de créer un lieu dédié à 100% à Clash of Deck, c'est-à-dire un lieu physique, une boutique. Un peu comme une boutique bar à jeux où on pouvait venir sur Laval, en plein centre de Laval. Donc Laval, c'est en Mayenne, c'est un peu la capitale de la Mayenne.
À Laval de quelle ville du coup? À Laval de Paris pour ça pour
non
Laval. À Laval.
Ouais. Tu connais la Mayenne ou pas du tout?
Pas trop.
Non. Est-ce que tu connais la Bretagne?
Oui.
Ok. Est-ce que tu connais Rennes?
Oui.
Eh ben tu fais Rennes, tu vas à droite.
C'est même pas Rennes quoi. C'est ça que tu veux dire.
C'est un
endroit où tout le monde se rencontre. Laval.
À Laval, okay. Laval. Donc on va dire que c'est une ville de moyenne taille. On est sur du 50 000 habitants, mais ça reste la capitale d'un département. Je sais pas, un chef-lieu, on appelle ça, je crois. Ouais, ça doit être ça.
Ça doit être ça.
Et du coup, en plein centre-ville, il y avait une boutique Clash of Deck Concept Store, et tous les mercredis et les samedis, de 14h à 20h ou 22h, ça dépendait. J'accueillais des joueurs curieux de pouvoir essayer, ou j'organisais des tournois sur Clash of Deck pour faire jouer au jeu, et moi aussi pour essayer de continuer à développer les jeux avec des nouvelles capacités, faire tester du proto en fait.
D'accord.
Et c'est un lieu que j'ai fait pour le fun, parce que clairement ouvrir deux après-midi par semaine, la rentabilité était impossible. C'était pas l'objectif, c'était d'avoir un lieu un peu convivial. En fait, c'est un lieu que j'ai toujours voulu faire, parce que quand j'étais jeune, on parlait de Magic tout à l'heure, j'allais dans une association qui était un espèce de mini bar à jeux qui s'appelait Tartempion à Colombes. Colombes, ça te parle?
Plus, je peut-être. Vois.
Ouais, okay. Colombes en région parisienne dans le 92, où j'allais tous les mercredis et samedis pour jouer à Magic, et c'est là que j'y suis allé quelques années et j'ai adoré ce lieu, et je me suis toujours dit que je créerais un jour un lieu un peu similaire.
D'accord.
Et comme j'avais créé un jeu à la Magic, je me suis dit tiens, je vais créer mon lieu où je ferai jouer à Clash of Deck.
Du coup, il y avait les 50 000 habitants de Laval qui se retrouvaient
C'était la folie. Il y avait la queue dehors. C'était fou. Pas du tout. C'était, la plupart du temps, il n'y avait pas grand monde. Là où il y avait le plus de monde, c'est quand il y avait des tournois. Mais moi, ça m'allait parce qu'en fait, ça me permettait de bosser quand il n'y avait pas grand monde. Et quand il y avait du monde, je faisais jouer. C'était un lieu un peu chill. Ça me permettait aussi de sortir de chez moi. Parce que je suis en télétravail à 100% depuis des années maintenant. Ça me fait une espèce de bureau aussi où je peux m'isoler de temps en temps. Donc, non, c'était cool. C'était très chouette. J'ai arrêté. Pourquoi? C'est parce que j'ai plus le temps, en fait, de mobiliser deux après-midi complètes par semaine avec tous les projets que je veux mener de front. C'était sympa au bout d'un an et demi, je pense que il était l'heure de passer à autre chose.
Mais c'était un peu barrageux, un peu comme...
Ah, complètement, ouais, il y avait une machine à café, on pouvait faire du chocolat chaud, okay, ouais. Il y avait des sucettes, ouais. Il y avait des brownies,
il y avait un peu de vente quand même, quoi, je veux dire. Enfin, t'essayais de rentabiliser un petit peu.
C'était plus un service pour dire aux gens, vous pouvez prendre une canette, ou un chocolat chaud pendant que vous êtes en train de jouer, c'était plus un service supplémentaire que vraiment un moyen de faire de la rentabilité. D'accord. Vraiment, parce que je suis même pas sûr d'avoir pu amortir ma machine à café sur l'ensemble de l'exercice.
Et à ce moment-là, tu dis on, et vous êtes, t'es tout seul à gérer ça ou vous êtes deux?
Alors, dans la société à l'époque, on est deux. Il y a moi et Adeline. Adeline, elle est plus concentrée sur la partie presse. Moi, je suis plus concentré sur la partie projet délirant.
Ouais.
Lié autour des jeux. Donc, la partie création et édition de jeux. Cette partie-là de création d'un concept store, c'était plutôt mon côté.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Mais ça n'empêchait pas au départ d'être un peu présente, c'est-à-dire qu'elle a fait quelques ouvertures, mais au final, c'est moi qui ai récupéré à 100% les temps d'ouverture. Elle m'a dit, tu te débrouilles avec tes histoires, là, ça suffit.
Avec tes expérimentations, c'est ça
Exactement.
Alors peut-être pour finir sur Clash of Deck, t'as participé au Black Friday là de Philibert cette année?
Ouais, tout à fait.
Il y avait, je crois, 700 lots, c'est ça de... Ouais.
700 lots. En fait, on s'est dit, l'année dernière, j'avais contacté Théo Rivière, qui co-organise le Black Friday avec Philibert. Et je lui avais dit, tiens, ce serait cool que j'offre un jeu Clash of Deck pour tous les participants de la Tombola. Il m'a dit, ouais, c'est un peu zinzin, nanani, nanana. Je lui ai dit, ouais, mais ce serait cool que ça c'est hyper incitatif. Et en fait, c'était un peu trop tard dans l'organisation. Et je lui ai dit, bon, écoute, c'est un peu compliqué là, on s'en reparle l'année prochaine. D'accord. Et donc l'année prochaine arrive, c'était l'année juste là, et je lui ai dit, écoute, je reviens avec mon idée que je t'ai proposée l'année dernière. Est-ce que t'es chaud pour faire gagner quelque chose à tous les participants? Ça va peut-être stimuler les ventes de tickets de tombola.
Ticket, hein.
Et il m'a dit ouais, ok, carrément. Et donc je lui ai demandé combien il avait fait de combien de participants avait été engagé l'année précédente. Il m'avait dit autour de 550-600. Je lui ai dit bon, ce qu'on peut faire, c'est que on n'a qu'à se mettre une limite quand même parce que ça peut vite partir. Je dis, on n'a qu'à dire les 700 premiers, on leur donne un méga lot Clash of Deck d'une valeur de 150 €. Il y a le lot ligne de toutes les extensions, tous les accessoires édités depuis le départ. Et ça fait un super cadeau. Je veux dire, tu prends un ticket à 5 €, t'as une valeur marchande perçue de 150. Je veux dire, c'est cool.
Oui.
Et donc, on a dit, on limite aux 700 premiers, ça devrait couvrir l'ensemble, en fait, des participants. On s'est dit, il y aura peut-être un peu plus de participants que l'année dernière. Le truc, c'est qu'en fait, les 700, ils ont été atteints 1h30 après l'ouverture des tickets.
Ah ouais.
Donc, heureusement qu'on a mis une limite, parce que sinon, j'aurais
T'avais même pas assez de stock.
Si, c'est ça, j'ai encore. Alors, j'ai fait le fifou sur la première édition. En fait, on a imprimé énormément. Là, il me reste du stock pour 150 ans à venir environ.
Aïe.
Non, je plaisante. Peut-être pas autant. Mais il me reste encore pas mal de stock. Mais c'est pas grave parce qu'en fait je vais m'en servir. On réfléchit à des idées. Moi je veux pas que mes jeux finissent chez Noz ou des stockers comme ça. J'ai plutôt envie de valoriser mes jeux. Et là comme le jeu vidéo va arriver, en fait pour communiquer dessus, ce qu'on va proposer c'est que toutes les personnes qui vont télécharger le jeu et mettre un avis, peu importe positif ou négatif sur un store, ils pourront, on leur envoie gratuitement un pack d'initiation et une extension de Clash of Deck pour stimuler le téléchargement et le fait que la commu se rejoigne sur l'app. Okay. Donc, à mon avis, les jeux vont vite fondre. Enfin, le stock de jeux va vite fondre avec cette politique-là. Mais oui, c'est un peu notre délire on aime bien, offrir des choses de manière générale.
C'est très extrême comme proposition au final. Enfin, je veux dire, ça.
On est un peu des extrémistes.
Je vais être honnête. Quand je vois tout ça, moi, je me demande comment tu t'en sors dans la vie, comment tu vis, quoi.
Bah, écoute, là, actuellement, je suis sous un pont. C'est compliqué. Pas du tout. Mais en fait, on se rend pas compte, mais, le bénéfice généré par la vente d'un jeu direct permet de faire ce genre de choses.
D'accord.
Tous
les intermédiaires.
C'est-à-dire d'assumer d'être tous les intermédiaires.
Bien sûr.
En fait, tu ne supprimes pas les intermédiaires, tu les assumes. C'est toi les intermédiaires. C'est-à-dire c'est autant de travail que tu dois faire. Concrètement, je ne supprime pas le fait d'envoyer un jeu. C'est moi qui prépare le jeu dans l'enveloppe, etc.
Parce que les 700, du coup, tu les as envoyés quand même.
Ah ouais, à la main, à la mano.
Les gens les ont reçus.
Ah oui.
C'était pas juste de l'esbrouf.
En quelques jours, on a préparé les colis, tout était prêt. Après, maintenant, on commence à être rodé dans la préparation de centaines ou de milliers de colis. On commence à avoir un peu d'expérience.
C'est un entrepôt à côté de la maison.
c'est ma maison et mon entrepôt. C'est-à-dire que
tu vis avec des cartons autour de toi.
Mais oui.
Pour l'isolation, c'est bien.
Tout mon garage. En fait, j'ai un garage qui fait toute la surface de la maison. Et tout mon garage, et c'est là où j'ai toutes mes palettes.
Le fameux auteur qui a créé son jeu et qui a son jeu dans le garage.
Exactement.
C'est toi.
Le fameux mythe.
Enfin, c'est pas que toi, mais.
Mais oui, donc, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à la, tu te demandes comment c'est possible de faire tous ces projets un peu qui coûtent de l'argent au final, parce que donner des jeux, ça coûte de l'argent. Mais en fait, dès que quelqu'un achète un jeu, imagine, je te parlais tout à l'heure d'un jeu qui coûte environ 40 ou 50 centimes à produire. Si je le vends en direct à 10 euros, ma marge, elle est folle. Elle est à 9,50.
C'est ça, mais t'es un escroc, en fait.
Si je... C'est pas comme ça que je l'aurais dit. Mais je comprends l'idée. Parce que la fabrication, en vrai, c'est peanuts dans le coût de production. Enfin, le coût réel d'un jeu. C'est pas ça qui fait le... C'est pas ça qui... Le poste de dépense le plus important, c'est pas ça.
C'est les heures que t'y as passées.
De fou. Les heures, les festivals, la communication, les expéditions, enfin tout. En fait, il y a tout qui prend du temps. Le développement, la création. Moi, comme je fais toutes les casquettes, j'ai tout cumulé. Finalement, la fabrication, bah, ça me prend pas de temps parce que c'est quelqu'un d'autre qui le fait. C'est le seul poste auquel je dépense presque pas de temps. Ce que je voulais te dire, c'est que, tu vois, si j'étais passé par une boutique de jeux, mon jeu que je vends 10 euros, au final, je récupère pas 9,50 dessus. Alors que sur les 9,50, il y a la TVA, il y a d'autres frais, hein. Mais c'est pour schématiser. Bah, je récupère, genre, 5 à 6 fois moins. C'est-à-dire que si je peux vendre 5 à 6 fois moins de jeux en vente directe que en passant par le circuit traditionnel, ça revient au même.
Ouais, d'accord.
Et surtout, comme je disais tout à l'heure, pouvoir capter une audience et avoir le lien direct via des newsletters et contacter directement ta clientèle, donc tes joueurs qui te suivent, c'est hyper puissant comme outil. Alors que sinon, tu es complètement tributaire des intermédiaires, boutiques, distributeurs, qui ont, eux, le lien direct avec les clients finaux.
Ouais, là, t'as des personnes en face qui sont très réceptives.
Oui, puis il y en a qui
sont dans ton schéma, qui te soutiennent.
Qui soutiennent depuis les tout premiers,
qui te connaissent depuis longtemps,
depuis
en fait.
Tower Defense. Moi, j'en ai qui me soutiennent depuis Tower Defense. Alors, pas beaucoup, parce que, au départ, c'était pas beaucoup, mais, il y en a qui me soutiennent depuis, par exemple, Clash of Deck 2020, et ils sont là depuis 5 ans. Et en fait, ils soutiennent à la fois les jeux, mais je pense surtout qu'ils soutiennent aussi
la démarche,
le côté expérimental de pouvoir suivre un auteur qui vit de sa passion et qui lance des projets un peu foufou, un côté un peu disruptif. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui attire.
Et de là est née l'utilisation du pay what you want que tu utilises maintenant sur les derniers projets.
Ouais, en fait on avait commencé avec le free to play avec Clash of Deck. Le problème c'est que pour le coup le free to play ça génère aucun bénéfice. C'est très compliqué. C'est bien pour une campagne de com, mais l'avantage du pay what you want, c'est que ça cumule les avantages de l'accessibilité. Donc les gens peuvent mettre le minimum s'ils veulent mettre le minimum. Mais l'autre gros avantage, c'est que ceux qui veulent soutenir, et j'en ai beaucoup dans ma commu qui veulent soutenir, eh ben, ils peuvent le faire. Et donc, ça m'a permis d'expérimenter ce premier modèle sur la game Little Pocket, un autre projet Kickstarter. Et c'était assez surprenant de constater que, sur Internet, je m'attendais à ce que les gens abusent. Il y a la distance, il y a le côté on voit pas la personne en face, on peut mettre le prix qu'on veut et les personnes pouvaient mettre à partir de 1 euro et la moyenne qui a été mise c'était plutôt autour de 10 euros.
D'accord.
Et donc c'était assez encourageant.
Que t'aurais estimé à
autour
combien?
Autour de 10 euros.
Ouais,
moi j'avais communiqué sur le fait que si je le vendais pas en pay what you want, donc en prix libre,
tu l'aurais mis à 10 euros.
Je l'aurais mis environ à 10 euros.
Ok.
Je disais environ 10 euros parce que je voulais pas trop orienter, voilà. Ça aurait pu être 8, ça aurait pu être 12.
Et du coup, tu retombes sur tes pattes. C'est incroyable, quand même.
Bah, vente directe, encore une fois. Ouais.
Mais je veux dire, c'est pas que vente directe, c'est aussi le truc, ce que je veux dire, c'est que dans la moyenne, il y a des gens qui ont mis moins, il y a des gens qui ont mis plus.
Ah oui,
et du coup, tu retombes sur tes 10 euros, quoi.
Ouais, totalement. Ouais. Oui, au final, le prix, la moyenne lissée sur l'ensemble des backers te donne une moyenne qui est autour de ce que moi j'attendais, ouais. Donc, mais il y en a qui ont donné beaucoup plus, hein.
J'imagine, du coup.
Parce qu'en gros, il y en a de mémoire sur le premier projet sur la Game League Pocket, il y a environ 25% des backers qui ont donné le minimum, 1 euro.
D'accord.
Et donc, pour compenser ces 25% de 1 euro, pour qu'il y ait quand même une moyenne à 10, il a fallu quand même que les 25 qui ont donné le plus aient donné quand même vachement plus. Parce que le double, en fait. En moyenne, en lissant.
Donc là, c'était pour Game League Pocket.
Ouais.
Tu peux nous en toucher un petit mot?
Tout à fait, ouais. La Game League Pocket, pas vraiment un jeu de société, c'est des jeux de société. C'est une petite boîte qui tient dans la poche, qui permet de jouer à des dizaines de jeux traditionnels du monde. Concrètement, actuellement, il y a 52 jeux traditionnels. On parle pas de jeux de cartes, on parle vraiment de jeux de plateau du style le Senet, la Wallée, ce genre de jeux. Et en fait, avec les composants minimalistes qui ont été choisis et sélectionnés dans cette petite boîte, c'est possible de jouer à autant de jeux de société du monde. C'est un peu une boîte à outils qui permet de découvrir des jeux traditionnels, mais pas que, parce que moi également, tous les mois, je propose une règle originale que je crée moi-même et qui est jouable avec les composants de la Gamely Pocket. L'idée, c'était d'avoir une boîte, une espèce de ludothèque de poche. Bah, ça s'appelle comme ça en même temps. Gamely Pocket, ça veut dire ludothèque de poche. Et l'idée, c'est pas que de moi proposer des jeux et que ensuite ça soit un produit terminé. Là, on travaille avec des partenaires pour l'intégrer dans des game jams, par exemple, pour stimuler les auteurs à proposer des règles compatibles également avec les composants de la Game Libre. L'idée, c'est de faire vraiment une espèce de boîte à outils qui puisse être
dans les auteurs, mobilisé par tout le monde, se saisir
Ouais, et puis qu'ensuite ça puisse être partagé. C'est-à-dire que ça facilite grandement aussi le test des protos. Si par exemple t'as un auteur qui crée un jeu, mais qui ensuite il faut X matériel compliqué, ou alors faut l'imprimer. Alors que si quelqu'un a une Gamely Pocket, il crée un jeu, une autre personne a une Gamely Pocket, il a juste à aller sur internet, à lire les règles, et il peut essayer le jeu de la personne. Mmh. C'est génial. C'est
ouais, donc des composants suffisamment génériques en fait pour permettre tout ça.
Dedans, tu as un jeu de cartes qui fait 55 cartes. Tu as également, et au dos des cartes, t'as des cases, t'as comme un quadrillage qui permet, en fait, en utilisant le dos des cartes, de créer des plateaux de jeu.
Oui.
Modulables. Donc, tu peux créer des plateaux de jeu de n'importe quelle taille. Enfin, n'importe quelle taille. C'est pas abusé, mais très très grand, déjà. Il y a des cubes en bois. Et il y a deux meeples. Et il y a 4D également. Donc, c'est assez minimaliste. Il y a peu de choses. Mais, il y a moyen, déjà, de faire 64 jeux différents.
Et de là, donc, les règles sont téléchargeables sur ton site.
On a le site de Gamely qui s'appelle gamelypocket.com. Et toutes les semaines, je mets une règle de jeu traditionnelle disponible en PDF et une règle tous les mois, originale que je crée.
Une création originale que t'as fait toi.
C'est traduit en français, en anglais, en espagnol et en allemand et bientôt en italien. Et une fois que toutes les règles auront été diffusées à la fin de l'année 2025, on envisage une réédition de la Gamely Pocket pour un format boutique. On cherche un distributeur avec un
calibré de règles, du coup.
Exactement. Ouais. En fait, on adorerait pouvoir proposer le produit avec directement les 64 règles intégrées dedans, avec un livret de 70 pages. Ça serait vraiment cool. Bon, en tout cas, on y songe fort. C'est pas encore acté. Et si ça se fait, je confierai ça à un distributeur pour le coup. Tu vois, je suis pas fermé à travailler. Je suis pas fermé à travailler avec les boutiques, hein, pas du tout. C'est juste qu'il y a certains projets qui s'y prêtent et d'autres moins.
Bien sûr.
Ouais, t'aimes bien garder un petit peu ton petit terrain de jeu et puis après voir étudier ce qui est possible de faire avec ce qui a accouché de ça. Quoi.
Totalement. Ouais.
Après, c'est pareil. Ça reste une évolution en plusieurs vies avec toujours de la com, un abord qui est original et toujours avec une volonté minimaliste, mais dans l'absolu pour essayer de toucher le maximum de personnes quand même.
Ça, c'est l'objectif systématique. Les modèles économiques qu'on choisit, je dis on, mais c'est surtout moi, mais j'aime bien dire on parce que comme ça fait moins de jeux. Les modèles économiques qu'on choisit, que le pay what you want notamment, c'est des modèles qui se veulent accessibles, et ça c'est vraiment au cœur de nos préoccupations, de diffuser au maximum, le plus largement possible, nos jeux. Effectivement, passer par les boutiques, ça serait cool parce qu'on ça permettrait aussi de toucher un autre public. Faudrait qu'on y arrive à un moment donné. Pour l'instant, on se concentre vraiment sur de la vente directe. Et ce que je voulais rebondir aussi par rapport à ce que tu disais juste avant, c'est que effectivement quasiment tous nos projets, ils ont plusieurs vies, et en fait ils ont plusieurs étapes de développement. Presque une V1, une V2, une V3, je reviens sur Clash of Decks parce que c'est symptomatique. On commence avec un jeu à découper soi-même. On part sur ensuite un jeu standard avec des cartes. Ensuite, on arrive sur une version digitalisée. Donc, il y a vraiment, presque comme si les jeux étaient un peu vivants.
C'est ça.
Et ils évoluaient. Et là, c'est un peu le même concept qu'on veut faire avec la Gamely Pocket. C'est d'abord une première version qu'on a fait sur KS, qui marche très bien, qui est efficiente. Mais il y a toujours moyen d'améliorer ces projets. Et celle-ci dont je parlais juste avant, pour moi, ce serait une V2 qui serait intéressante en boutique.
Dans les derniers financements participatifs, il y a Micro Hero aussi, qui annonce probablement le début d'une gamme. Est-ce que je me trompe?
Absolument pas. Non, c'est tout à fait ça. C'est On a annoncé Micro Héros au tout départ, et ensuite on a teasé Micro Héros Hercule, et effectivement beaucoup de personnes ont dit hey, est-ce que ça serait pas une gamme? Effectivement, ça serait une gamme. On veut pas faire la même erreur que sur Clash of Deck, on veut pas sortir trop d'extensions d'un coup pour le coup, et on va se retenir, parce qu'on a déjà du contenu en fait qui a été créé. On va se retenir de le publier trop rapidement pour donner le temps aux gens de découvrir chaque opus. Pour le moment, on se concentre sur la mythologie grecque. Le premier, c'est Hercule. Mmh. Et ensuite, on va certainement décliner. Une fois qu'on aura fait les principaux, Achille, Thésée, etc., on déclinera certainement sur des mythologies égyptiennes, nordiques, voire même celtes avec la légende du roi Arthur ou autre. On verra jusqu'où ça pourra aller. Le petit pitch quand même sur Micro Héros Hercule, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu minimaliste qui tient en 55 cartes et qui propose une expérience de deck building solo, uniquement solo, avec une petite variante coopérative si on a deux jeux, mais bon, c'est un peu à part. Mais le principal, il a été conçu comme un jeu solo de deck building qui reprend un petit peu les codes du jeu vidéo avec un principe de roguelike, c'est-à-dire des runs qu'on lance, une difficulté dans le jeu qui est très haute. En général, on va se casser les dents sur les premiers runs, et plus on va apprendre de ces échecs, et plus on va pouvoir aller de plus en plus loin jusqu'à éventuellement terminer les 12 travaux. Là, le premier, le but, c'est de faire les 12 travaux d'Hercule. Donc, au début, on va réussir à en faire 1, 2, 3. On va commencer à patiner. Et plus on va comprendre les mécaniques et les subtilités du jeu, et plus on va pouvoir aller de plus en plus loin. On n'est pas sur un roguelite, qui est très différent, où le roguelite, une fois que tu perds une run, te donne une compensation. Donc, un petit bonus, quelque chose qui te permet mécaniquement d'aller plus loin. Non, le roguelike, c'est... Tu recommences depuis le début, tu te débrouilles, tu
t'es
comprends
pareil,
tes échecs.
T'es toujours à poil.
T'es à poil avec ton couteau et tu te débrouilles. Et moi, j'aime beaucoup le principe de difficulté dans les jeux, notamment solo, parce que en fait, les jeux solo, dès que t'as fait une victoire, souvent en fait, moi personnellement, je suis découragé à me relancer une partie. Je me dis, mais en fait, j'ai terminé le jeu,
c'est satisfait.
Bon, je passe à autre chose. Donc j'ai fait exprès que le jeu soit difficile, pas trop sur les deux. 3 premiers runs pour pas décourager à fond les joueurs non plus, mais pour atteindre les 12, c'est assez poussé. Et donc en fait, on est sur un tout petit format qui fait 55 cartes, mais une partie complète, c'est 4 heures de jeu.
OK.
Ouais, non, c'est sauf que le format ne reflète pas du tout l'idée qu'on pourrait se faire d'un petit jeu de cartes. Bon, c'est du 15-20 minutes. Non, c'est du 15-20 minutes, la manche, le travail, il y a 12 travail. 20 travaux, c'est mieux. 20 fois 12 4 heures. Ok, c'est bon, on est bon.
On est bon.
Les comptes sont bons.
Genre, raconte.
Ouais, c'est bon, on est bon. Et donc, c'est un jeu dont je suis auteur. Ça, j'ai pas crédité d'ailleurs. Mais je suis auteur sur ce jeu et l'illustrateur est Rémi Leblanc.
Et Micro Héros, il est pas encore livré, celui-là. Ça s'est terminé il y a pas si longtemps que ça, le financement.
Le financement s'est terminé fin janvier. Mm-hmm. Actuellement, on est en période de late pledge. Exactement. C'est-à-dire qu'on peut encore s'engager tardivement. Jusqu'au mois de juin, en fait.
Voilà. Jusqu'au
mois de juin.
D'accord. On est comme ça. Et les backers devraient être livrés, fin juin. Concrètement, si on arrive à respecter le planning de qu'on s'est fixé, fin juin, normalement, les backers reçoivent leur, les jeux sont expédiés fin juin. Donc, ensuite, le temps qu'ils les reçoivent, il peut se passer quelques semaines.
Cette campagne, elle était sur Kickstarter, cette fois-ci?
Tout à fait.
C'est ça?
Maintenant, on passe que par Kickstarter.
Ouais. Et le Late Pledge, ça se passe,
sur Kickstarter.
Aussi sur Kickstarter.
Ouais.
D'accord.
Kickstarter a fait quelques progrès. Ils sont restés très, on va dire conservateurs sur leurs acquis. Mais depuis quelques temps, ils se remettent en question et proposent des nouvelles fonctionnalités. Et une des nouvelles fonctionnalités qui a été le plus sollicitée par les créateurs de projets, c'était de pouvoir organiser un Late Pledge directement sur la page de Kickstarter.
C'était galère sans nom avant. Il y avait des histoires un peu pour rapprocher aussi les adresses, je sais pas quoi.
Bah, en fait, il fallait passer par un site tiers et donc faire basculer toutes les informations sur qui a pris quoi, etc. Même pour la préparation des expéditions, c'était un peu compliqué. Ouais. Là, je trouve que ça va dans le bon sens, en tout cas. Il y a du mieux.
Ok. On a vu aussi que t'avais recruté quelqu'un récemment. Alors, Gram Édition, c'est le nom de la maison sur laquelle tout repose, qui est constitué de toi, si j'ai bien compris, d'Adeline, c'est ça?
C'est ça.
Et donc, depuis un mois ou pas très longtemps, je crois, non?
Ouais, un mois.
Doria qui a rejoint l'équipe?
Tout à fait. En fait, la maison d'édition a été créée en 2020. Avec Adeline et moi comme cofondateurs, à 50-50. Et depuis, on avait recruté à un moment donné un graphiste qui était également mon frère, sur une période de un peu plus d'un an. Et on s'est de nouveau retrouvé à deux avec Adeline. Et là, on avait besoin, en termes de renfort, d'une personne qui soit en capacité de m'assister sur la partie communication et édition de nos projets, parce que il faudrait que je puisse dormir la nuit à un moment donné. Donc, on a recruté effectivement Doria depuis maintenant le début février.
Alors, excuse-moi, donc c'est Doria, son nom de famille, c'est Roustan, c'est ça ?
Absolument.
Doria Roustan.
Doria Roustan.
Et Adeline
Délé. Ouais.
Donc Adeline Délé et Doria Roustan, ok.
Exactement.
Et donc Doria, oui, tu disais, pardon.
Et Doria, en fait, on avait commencé le processus de recrutement il y a quelques temps déjà, en fait, depuis le mois de septembre. Ça a pris un peu de temps parce qu'on a eu énormément de candidatures, parce que le poste était en télétravail à 100%, avec des horaires aménageables, bosser pour une maison d'édition extrêmement attrayante, évidemment. Et donc, forcément, on a eu beaucoup de candidatures. On a eu plus de 110 candidatures qu'on a dû étudier une par une. Ouais, non, c'est, ensuite, on a fait 10 visios avec les 10 candidats qu'on estimait être les meilleurs. Et ensuite, on a délibéré. Finalement, on a opté pour Doria, qui cochait vraiment toutes les cases. Mais c'était notre premier recrutement aussi poussé. Où on a été chercher vraiment quelqu'un de l'extérieur qui correspondait à une vraie demande, et donc on a essayé de faire les choses au mieux.
Et là, donc, vraiment salarié du coup de Grand Édition, pas de la prestation.
Non, là, c'est pas de la prestation. Doria, elle est chez nous en CDI 35 heures, elle est en période d'essai encore, mais normalement ça devrait passer.
T'as raison de lui rappeler quand même.
Non, faut serrer la vis un peu. Et non, ça se passe extrêmement bien, et donc on espère que ça va durer le plus longtemps possible. Et Doria a une expérience dans le jeu, elle arrive pas de nulle part. Elle a travaillé chez Matago il y a quelques années, elle a travaillé également chez Funforge, et puis elle a aussi une fibre un peu entrepreneuriale, puisque elle a lancé plusieurs projets en tant qu'entrepreneuse, solopreneuse. Voilà.
Et donc toi, tu vas pouvoir te libérer un petit peu ce temps de communication qui est relativement énorme, même si c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte du temps que ça peut prendre pour communiquer, organiser ses projets sur toutes les plateformes et tous les moyens de communication qui peuvent exister actuellement.
Ouais. Tu travailles combien d'heures par semaine aujourd'hui ?
Ah, c'est une vraie bonne question.
Est-ce que c'est quantifiable ?
Je peux donner une estimation.
Ouais.
On va dire que en moyenne, j'ai pas de week-end. Je travaille tout le temps. J'ai pas de week-end. Et en moyenne, si je lisse avec le week-end où c'est un peu plus light quand même, je dirais que sur les week-ends, je dois être autour de 8 heures. Et on va dire qu'en semaine, je dois être, c'est très variable, mais entre 12 et 14 heures.
Ça fait beaucoup, hein.
Ouais.
Mais c'est un travail.
C'est ça, en fait. C'est un travail sans être un travail. C'est-à-dire que, à partir du moment où ce que tu fais, c'est à la fois ta passion, ta raison d'être, tout mélangé, c'est difficilement quantifiable. Et si je m'épuisais, j'aurais arrêté depuis longtemps. En l'occurrence, moi, j'ai besoin de toujours tourner dans ma tête des nouveaux projets, des nouvelles idées, etc. Donc, je suis toujours actif. Je considère pas que je m'impose pas un rythme de travail d'acharné. Factuellement, c'en est un, et je ne l'imposerai à aucun de mes salariés parce que c'est pas tenable. Mais je le vis pas mal, en fait. Donc, je travaille beaucoup, c'est vrai, énormément.
Mais tu t'en plains pas, quoi.
Ah non, pas du tout. Je kiffe ça. Ah non, mais c'est une chance inouïe. Et donc, tant que je peux le faire, je le fais. Pour avoir travaillé en tant que salarié pendant des années au préalable dans des métiers alimentaires, je vois clairement la différence qu'il y a avec celui-ci. Là, si je devais ramener mon salaire à l'heure, il serait pas ouf.
Bien sûr.
Je pense que je suis payé comme un petit chinois. Mais honnêtement, je kiffe trop. Je le vivrais extrêmement mal de devoir retourner à un métier alimentaire. Donc, tant que je peux, j'y vais à fond. Et puis, en plus, je fais des projets qui sortent de ma tête, je les accomplis, etc. Donc, non, c'est hyper gratifiant aussi.
Et voilà. Puis, tu nous as pas tout dit, parce qu'il y a encore cette partie, en plus, d'édition de presse.
Aussi, ouais.
Hein, tu peux développer un petit peu.
Mais carrément. L'édition de presse, pour tout dire, ça a commencé par la création de la société. La viabilité économique de la société a commencé par là, en 2020. Non, faut que je revienne en 2019, en fait. En 2019, j'avais contacté Philibert pour leur proposer de leur faire un jeu tous les mois, un nouveau jeu qui tient sur une feuille. J'en parlais tout à l'heure, c'est la fameuse collection Cut and Play. Et tous les mois, l'idée, c'était de mettre dans chacune des commandes de Philibert un jeu financé par la publicité d'un éditeur au dos du jeu. Et on a fait ça pendant un an, c'était très sympa.
Ça a bien marqué les esprits, je pense.
Ouais, c'est déjà ça m'a permis moi de me faire connaître aussi un petit peu plus.
Bien sûr.
Et celui qui n'a pas un de ces jeux, nous le mettre dans le commentaire. Celui où c'est là.
Il y a aucun. Et ensuite, en fait, on s'est dit, créer un jeu tous les mois, ça prend quand même pas mal de temps en termes de créativité, parce qu'il faut trouver des nouvelles idées très rapidement dans le flux, c'est un peu compliqué.
C'est une contrainte.
Ouais.
Pour et la puis, créativité, c'est pas.
Non, et puis en plus à l'époque, je bossais pour Lucky Duck Games, et donc je comptais pas vraiment mes heures non plus, donc j'étais déjà très très chargé. Et en fait, l'année d'après, en 2020, je me suis dit, comment je peux faire pour continuer ce partenariat-là avec Philibert, mais d'une autre manière, et avec peut-être un modèle économique un peu plus stable, parce qu'en fait, je gagnais rien vraiment sur les jeux. En fait, la pub de l'éditeur finançait l'impression du flyer, mais c'est tout. Elle ne finançait pas mon travail d'auteur, oui. Ni rien. Donc c'était vraiment, moi c'était vraiment le plaisir de partager mes jeux massivement. D'accord. J'étais déjà très content que ça se fasse. Et là, je me suis dit, comment je peux faire pour que ce projet-là puisse générer un petit peu d'argent. Et je me suis dit, on pourrait passer d'une feuille à plusieurs feuilles. Et plusieurs feuilles, ok, mais comment on fait pour les relier ensemble? Avec une dagraphe. Et incroyable. Du coup, ça fait un magazine.
Là, t'as inventé le magazine.
Oui, c'est ça.
Et j'ai inventé le magazine.
Bravo.
Exactement. Et le modèle économique était méga simple. C'était exactement le même que sur le projet précédent. C'était que des pubs d'éditeurs financent le magazine. Et donc, en fait, que environ 25% du magazine soit réservé à de la publicité d'éditeurs qui veulent promouvoir leur jeu. Et en plus, c'est extrêmement solide. C'est-à-dire que tout le monde est gagnant. Parce que les éditeurs ont une com extrêmement ciblée qui s'adresse directement aux acheteurs de jeux de société, pas juste à des joueurs de jeux, vraiment à ceux qui achètent des jeux. Donc c'est très puissant. Philibert a un goodies différenciant par rapport à leurs concurrents qui permet d'offrir un magazine tous les mois différent à leurs clients avec de l'information et de la communication dedans. Et nous, ça nous fait une activité lucrative, en tout cas plus que mes jeux, et qui permet d'avoir une rémunération immédiate à la fois pour moi et pour Adeline, et de pouvoir lancer la société à ce moment-là. Donc en fait, c'est le Philimag qui a permis de lancer en quelques mois le Gram Édition, et c'est ça qui permet de nous rémunérer, moi et Adeline, dès le départ de cette aventure.
Ouais, c'est ça qui offre la stabilité du coup pour l'entreprise,
et c'est ça qui permet de faire des projets un peu fous aussi à côté. Parce que quand t'as une stabilité financière grâce à un projet qui est stable et qui est pérenne sur une année ou deux années, etc., c'est ça qui te permet de pouvoir expérimenter du pay what you want, du free to play, etc. Si j'avais pas une stabilité financière, je pense pas que je serais en capacité de pouvoir proposer ce genre de modèle. Voilà. Donc merci Philibert, merci les éditeurs. Vous me mettez bien.
Du coup, tu peux nous rapidement nous expliquer un peu comment ça se construit du coup un magazine tous les mois.
Ouais, complètement. En fait, tous les mois avec Adeline, on se concerte, on réfléchit, on regarde tous les jeux qui sont sur Philibert, parce qu'en fait tous les jeux dont on fait la communication dans le Philimag sont forcément vendus sur Philibert, sinon ça a peu de sens. Il faut que les personnes qui consultent le magazine puissent dire, ah, ce jeu, il a l'air cool, je vais m'enseigner, je vais sur Philibert. Oui, ok, il est en vente, super. Donc, en même temps, Philibert a quasiment tous les jeux. Donc ça, il n'y a pas trop de
problèmes.
Et comment ça se construit? En fait, tous les mois, on se réunit avec Adeline. On va regarder tout ce qui va arriver sur le mois où le magazine va sortir. On travaille les magazines deux mois en avance. C'est-à-dire que là, actuellement, on est en quoi? On est en février. C'est ça?
Oui,
c'est ça.
Et toi, t'es déjà en avril.
Et là, on travaille sur avril, exactement. Donc, parce qu'en fait, il y a le temps d'impression, il y a le temps de rédaction, il y a le temps de relecture, il y a toujours du temps de décalage. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on se met d'accord sur le jeu en couverture. Et en fait, sur le jeu en couverture, il y a toujours un dossier complet dessus qui fait une dizaine de pages, où dessus, on va faire un carnet d'auteurs, un carnet d'illustrateurs pour valoriser le travail des auteurs et des illustrateurs, un carnet d'éditeurs pour un peu comprendre comment le jeu s'est construit au fur et à mesure du temps.
Donc ça, c'est des choses que l'auteur, l'illustrateur, l'éditeur te fournissent.
Ouais, en fait,
c'est
pas complètement.
En mode interview un peu.
Ouais, exactement. Il y a des interviews. Après, pour le carnet d'illustrateurs, on nous envoie plein d'assets ou de work in progress, et nous on fait de la mise en page. C'est nous-mêmes qui décidons comment on construit ça.
Ok.
Mais oui, c'est pour le carnet d'auteur et d'éditeur, c'est un format d'interview. C'est souvent les mêmes questions. Il y a quelques questions qui diffèrent, mais c'est un peu comme pour le fil rouge. Il y a des questions qui sont récurrentes.
D'accord.
Sur les projets. Et à côté, il y a plein d'autres rubriques. Il y a des articles de fond, comme le comment c'était après, qui va traiter par exemple d'un ancien jeu et faire une association avec un nouveau jeu, que ce soit par une thématique ou une mécanique. On va avoir des top thèmes.
Ça c'est toi qui est-ce qui l'écrit ça?
Ça c'est Siegfried. Ouais. Siegfried Wurtz.
D'accord.
Siegfried Wurtz.
Okay.
Qui est notre rédacteur depuis maintenant longtemps, que j'ai connu à l'époque de Lucky Duck, qui était un de nos relecteurs sur les jeux Lucky Duck quand j'y bossais, et que j'ai gardé dans mon carnet de contacts et qui bosse avec nous sur le Philimac depuis maintenant en tant que freelance,
d'accord,
rédacteur freelance, et qui gère à la fois quelques articles à rédiger, des open the boîte, donc des présentations de jeux factuels et des articles de fond, et qui s'occupe également de la relecture.
Ok.
Moi, je m'occupe principalement, on va dire, de l'organisation, de comment est-ce que ça va être structuré là, au niveau de la pagination, la cohérence globale du magazine, le choix des jeux à mettre en avant. Il y a aussi tout ce qui est régie publicitaire.
T'as une partie d'interaction aussi avec les lecteurs et les acheteurs, puisqu'il y a des petites questions ou des choses sur lesquelles on peut intervenir en tant que lecteur ou acheteur.
Tout à fait. Tous les mois, on propose une question sur un thème en particulier qui s'appelle, la rubrique s'appelle Parole de joueur. Et en fait, on va poser une question sur le Facebook de la communauté des ludistes francophones. Et on va sélectionner une part des commentaires qui auront été mis sous cette publication pour alimenter ensuite cette rubrique-là. Donc oui, on donne... quand je lisais des magazines d'enfants quand j'étais petit, genre le Mickey, etc., il y avait des fois des encarts à la fin où les lecteurs... Voilà, exactement, qui pouvaient répondre. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas faire ça, c'est amusant. On a aussi une BD de Martin Wittberg, qui est toujours présente sur l'avant-dernière page. Il y a du contenu qui est récurrent. Il y a aussi du contenu, des fois, qu'on tente, un petit peu original, des choses qu'on garde, des choses qu'on oublie. En fait, on essaie toujours de faire on a une base qui est fixe, et puis on essaie, dans la mesure du possible, de pouvoir intégrer du nouveau contenu. Sachant que je l'ai pas précisé, mais la taille du Filimag est variable. En fait, le nombre de pages dépend du nombre de pubs qui ont été réservées. Donc concrètement, si on a eu peu de pages de pub, on va être sur un 36 pages, c'est le minimum. Si par contre on a eu beaucoup de pubs qui ont été réservées, on peut partir sur du 72, 80, jusqu'à 100 pages maximum. Le maximum qu'on a eu, c'était 100 pages.
Du coup, autant de contenu à fournir
sur un mensuel,
en plus,
c'est dense. Ouais. C'est extrêmement dense. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un 100. Je pense que là, les plus gros qu'on ait fait l'année dernière, par exemple, on était déjà sur du 80 pages, 84 je crois même. Et c'est déjà des très gros numéros qui demandent pas mal de temps en création de contenu.
Plus les hors-séries, il y a des hors-séries aussi.
Ouais, tous les étés, sur le mois de juillet-août, on a un hors-série. Et les hors-séries, pour le coup, il n'y a pas de création de contenu rédactionnel. Donc on présente pas des jeux de manière conventionnelle en disant ce jeu-là, nanana. Là, on est vraiment sur essayer les jeux, parce qu'on vous présente des jeux qui sont à cocher, à découper. Et en fait, c'est des espèces de mini-jeux de démo qu'on met en partenariat avec nos client éditeur, et ça permet d'avoir une espèce de cahier de vacances dans l'idée, avec des petits... C'est toujours de la promotion, c'est toujours de la communication en soi, mais de manière différente.
Ouais, bien sûr, orienté ludique.
Ouais. J'ai pas parlé des volumes, mais en gros, on fait sur les mois classiques, on fait du 18 000 exemplaires par mois en diffusion.
Ça commence à faire.
C'est volumineux. Ouais. Et sur les mois les plus intenses, comme le mois de novembre et décembre, par exemple, et juillet-août, on les a regroupés pour faire un seul numéro.
Bien
là,
sûr.
On est sur du 25 000.
Ouais. Ouais, ouais.
Donc, en gros, l'impression, c'est entre 18 et 25 000. Oui, ce qui fait quand même du gros volume. Ouais. Heureusement qu'on réceptionne pas ça chez nous. Ça part directement chez Philibert. Ça part de l'imprimeur chez Philibert.
Ça passe pas par ton garage.
Et ben, ça rentre pas.
Ok. Ouais, j'ai du mal à me représenter le volume que ça peut faire, mais
c'est énorme. Ouais. C'est plusieurs palettes. C'est vraiment c'est énorme. C'est okay. beaucoup. Et ce que je voulais dire également, c'est dans la partie presse, on fait le Philimag tous les mois. Mais on fait également le catalogue de Noël de Philibert depuis maintenant 3 ans. Et là, c'est ponctuel. C'est une fois par an. On prépare. Par contre, c'est une fois par an, mais ça se prépare déjà depuis le mois de
septembre.
Avril.
Ah ouais.
Avril. Oh. Bah, avril, parce qu'en fait, il faut commencer à contacter les éditeurs pour leur dire quels jeux
vous voulez mettre en avant pour Noël.
Et puis après, il faut récupérer les assets graphiques, les textes de présentation. Et puis après, il faut faire la mise en page. Et puis il faut faire la relecture. Et puis il faut que ça parte en impression fin septembre. Et pour que ça soit diffusé à partir de mi-octobre.
Oui, c'est vrai. Mais...
Et ensuite, de mi-octobre à mi-décembre.
C'est vrai que tout Noël, ça démarre en octobre.
Ça démarre très, très vite.
J'ai oublié.
Donc, non, c'est ponctuel, mais contrairement à un Philimag qui nous prend finalement, en général, beaucoup moins de temps, le catalogue de Noël, c'est un projet qui se travaille sur plusieurs mois. Maintenant, le Philimag, on est rodé. Ça fait 5 ans qu'on fait ça.
Il y a 52, plus de 50 numéros, là.
Je crois.
Oui, il me semble. J'avais regardé.
Je sais plus. Je crois qu'on est à 53, celui de mars, c'est le 53e. Ah ouais, non, c'est cool.
Et t'as créé Acrylogic, qui est un jeu qu'on va retrouver justement dans le Finimag, entre autres.
Ouais. Le Acrylogic, c'est un jeu de logique que j'avais pensé. À la base, c'était un jeu de société que j'ai repensé. Parce qu'en fait, je cherchais un jeu de démo à mettre de manière récurrente dans le Finimag. Mmh. Et je cherchais, qu'est-ce que je peux mettre. Et j'ai refondu un de mes jeux de logique, qui était sous forme d'un proto, en un jeu solo, qui
de
tient
magazine
avec la même,
quoi, effectivement. Ouais,
un peu dans le style des jeux, les mots fléchés, les sudoku, ce genre de jeu. Bon, on est plus proche d'un sudoku qu'un mot fléché, bon, on va pas se cacher. Mais en gros, c'est un jeu de déduction avec des numéros et des valeurs. Et le but, c'est de compléter sa grille. Mmh. On a mis ça dans le Finimag depuis quelques temps déjà. Et on a décidé à un moment donné de passer sur Kickstarter. On a fait une campagne Kickstarter pour vendre des livrets avec vraiment comme ce qu'on peut trouver dans la presse.
Ouais,
avec
bien sûr,
voilà,
de mots fléchés, de machin, mais là, dessous de coups, ça, voilà,
ça, ça a marchouillé. On a prévendu quand même 14 000 exemplaires. On les a diffusés. Mmh. Mais en fait, pour que ce soit vraiment viable, il nous en aurait fallu encore plus que ça sur le volume. Et on a décidé, du coup, de poser la question aux backers, de dire, est-ce que vous préférez qu'on continue avec un format papier, ou est-ce que vous seriez intéressé par un format numérique, une application mobile? Du coup, ils ont été majoritairement intéressés par une application mobile, et on a lancé quelques mois plus tard, en bossant avec un développeur indépendant, l'application de Acrylogic qui est disponible sur iOS et Android. Et le jeu est donc un free-to-play, et on peut y jouer de manière libre et gratuite sur ces deux plateformes.
D'accord. T'as pas exploré la piste du jeu de magazine, qui est un marché complètement à part. Hein,
mais je connais. En fait, c'est que ça prend du temps de rentrer sur des nouveaux marchés. Mmh. Je connais absolument pas la presse,
le canal,
presse papier vendue dans les kiosques. Je connais pas du tout le réseau de distribution. J'ai aucune connaissance. J'aurais pu.
Vous démarcher des journaux qui seraient intéressés pour mettre des encarts.
Ouais, ça aurait pu être possible. Mais encore une fois, je suis plutôt dans une démarche de contrôler tout de A à Z et donc de moi faire une application et de moi de la diffuser, je sais pas, ça me semble plus cohérent par rapport à l'ensemble de la démarche que de dire à d'autres éditeurs, tenez mon jeu, diffusez-le, vendez-le dans les kiosques et j'ai plus la main dessus. Donc,
et voilà. Techniquement parlant, t'as un algo qui génère tes trucs.
Je voulais juste en parler, justement. Je vais pas créer un algo parce que moi je suis une bille en informatique, mais j'ai sollicité Johan Levé.
D'accord,
qui est auteur de jeu.
Ah bah oui, il s'en est fait une spécialité là, du coup, depuis qu'il a
découvert. S'y connaît un peu en casse-tête.
Depuis qu'il a découvert qu'il y avait une matrice derrière tout ça, visiblement il s'est mis à fond dedans.
Donc c'est l'auteur de Myrmes et de beaucoup de jeux de logique récemment, chronologique, etc. Et il a bossé sur un petit logiciel qui permet de générer en très peu de temps plein de grilles, et ce qui a permis de générer 7000 grilles uniques avec des solutions uniques. Pour l'application du jeu, avec sur plein de niveaux différents. Il y a 7 niveaux de difficulté et sans ça, les créer à la main, ça m'aurait pris plus d'une vie entière. Donc non, je suis très reconnaissant et je suis très content d'avoir travaillé avec lui sur ça.
D'accord. Bah écoute, je pense qu'on a fait un sacré tour d'horizon. Je sais pas si tu veux ajouter encore des choses. On a sûrement oublié des choses.
Je peux teaser un tout petit truc, si tu veux. Les prochains projets pour 2025, on a déjà fait le financement de Micro-Héros, donc ça s'est fait. Le prochain Micro-Héros, ce sera sûrement Micro-Héros Ulysse, qui sera début 2026. Mais entre-temps, en septembre, on va lancer un autre projet qui est un jeu.
Ulysse et Hercule, c'est pas les mêmes en grec et machin, non? Non, j'ai des conneries. J'ai bugué. Okay,
par contre, moi, je veux bien Athéna. Tu vois pourquoi une déesse au milieu de tout ça, ce serait pas mal.
Parce que le nom du jeu, c'est Micro-Héros, mais je comprends. On m'a sollicité. Alors, c'est une vraie. Je fais un petit aparté là-dessus, c'est important. Quand j'ai proposé aux backers, j'ai proposé 6 nouveaux noms de héros pour les prochaines extensions. Il y avait que des noms de mecs. Ça a un peu jasé. Mais en plus, quand je l'ai rédigé la news, je me suis dit c'est sûr. Il va y avoir des réactions là-dessus.
Tu le sentais venir.
Ouais, mais oui, forcément. Et c'est légitime.
Bien sûr.
Dans le système de jeu qui est un système, de combat, d'affrontement, des héroïnes, il y en a, mais elles sont pas aussi connues, elles ont pas un nom aussi porteur que Hercule, que Achille, que ce type de personnage. Mais, dans chaque extension, j'intègre un personnage féminin qui est un alter, et donc là dans Hercule il y a le personnage Omphale que j'ai ajouté, Et Omphale, dans l'histoire, c'est une reine de Lydie qui a asservi Hercule pendant une année, où Hercule était soumis à elle pendant une année, où elle portait ses vêtements pendant que lui devait s'habiller en femme, se maquiller, etc. Et l'idée, c'était d'avoir à chaque fois dans chaque boîte de micro-héros, même si le nom qui était affiché était un nom masculin, il y a toujours un personnage masculin et un personnage féminin dans chaque boîte. Voilà. Mais je préfère laisser le nom masculin sur la boîte parce qu'il est plus connu.
Voilà. Donc, plus dans un souci de communication que...
Oui. Oui.
Après, tu peux, il y a deux côtés sur les boîtes. Mais oui, non, mais on va pas.
Mais tu vois,
je vais pas trop te titiller là-dessus.
Imagine, j'aurais mis micro-héros Omphale. Mais c'est qui Omphale?
Oui.
Alors que micro-héros Hercule, tout de suite, les gens savent qu'on va parler de la mythologie grecque.
C'est aussi comme ça que ça permet de faire connaître d'autres choses.
Mais totalement. Et c'est important de communiquer dessus.
Bien sûr.
Mais en tout cas, comme façade de couverture, ça sera forcément moins attrayant. Enfin, en tout cas, en termes de communication, ça sera beaucoup plus. Ça demande un effort supplémentaire de la part de la personne qui s'intéresse au projet en disant Omphale, ok, je connais pas, je peux m'enseigner. Ça peut être intéressant. Mais est-ce que je vais pouvoir avoir une accessibilité, une portée aussi forte qu'avec Hercule? Je suis pas sûr. Mais après, on peut en discuter. Et on était sur quoi à la base?
Tu parlais de.
Sur la suite des projets 2025-2026.
Ouais. C'est ça. Et donc sur 2026, il y aura micro-héros Ulysse. Il y aura un personnage féminin également. Faut que je creuse un petit peu son histoire un peu plus. Je la connais moins bien qu'Hercule, mais il me semble qu'à un moment donné, il est confronté à une sorcière qui a eu un rôle un peu décisif dans sa vie à un moment donné. Je sais plus comment elle s'appelle, mais je pense que ça sera peut-être elle, le personnage alter. Mais en fait, au mois de septembre, on va lancer un Kickstarter sur un nouveau projet, un jeu de cartes qui reprend le cœur mécanique de Clash of Deck. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on est sur un projet aussi très inclusif dans le sens économique du terme. Donc, il y aura un modèle alternatif qui sera accessible à toutes les bourses. Et on sera sur un jeu de cartes disruptif. Et ce que je peux dire, c'est juste très, très succinctement que ce sera un format de TCG.
D'accord.
Ok. Ouais.
Encore un.
Fin.
Petite tease.
Alors, c'est... Tu connais l'anneau unique de Sauron, un anneau pour les gouverner tous.
Ouais.
Et dans les ténèbres les lier. Mmh. Et ben moi, ce sera un TCG pour les gouverner tous et faire jouer tout le monde.
Ok, très bien. Il y aura
une spécificité qui permettra de lier tous les TCG ensemble.
Oh. Voilà.
Après, j'en dis pas plus. C'est cadeau. C'est moi qui regarde.
Ouais. Ah, c'est très très intrigant.
Intrigant. Ouais.
Ok, très bien. Écoute, sur ce méga teasing, je propose que nous allions vers la conclusion de cette émission. Déjà, merci beaucoup, Léandre, du temps que tu nous as accordé.
Merci.
Un grand plaisir.
Parce que pour ne rien cacher à nos auditeurs, on prévoit des créneaux un peu plus courts normalement, mais voilà, on s'est autorisé entre nous puisque c'était possible de prolonger un peu cette discussion. Donc, merci encore. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don, et pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeux.fr. Proxy avec un I et jeu avec un X. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt, et surtout,
jouez bien.